Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le 21e numéro de Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, présentée par Raymond, avec Fabrice à la technique. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur la gestion de l'eau dans les cités grecques de l'Antiquité, en Méditerranée, bien évidemment, et plus particulièrement en Sicile, qui est donc le champ de recherche de notre invité. Sophie Bouffier, bonjour.
Bonjour.
C'est donc vous notre invité. Vous êtes professeur d'histoire grecque à AMU, ex-Marseille Université, avec qui nous sommes en partenariat, et en même temps directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix, en Provence. Vos travaux portent en particulier sur l'eau en Méditerranée, avec une approche intéressante, puisque c'est une approche pluridisciplinaire. Bien sûr, l'histoire, puisque c'est votre discipline d'origine, mais également l'environnement, la géographie, mais aussi les aspects symboliques, mythologiques et alimentaires, puisque vous avez quelques publications également là-dessus. Alors, outre la Sicile, et en particulier la région de Syracuse, vous avez également travaillé sur l'Illyrie, c'est-à-dire l'Albanie. Et surtout, vous avez également travaillé sur Marseille. Vous avez eu pas mal de publications sur Marseille, sur son territoire, et sur la colonisation grecque en général. Je citerai donc dans vos dernières publications les territoires de Marseille, dans la collection Errance, Actes Sud, en 2014, les diasporas grecques du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ chez Cédès, et puis une publication qui est en cours depuis déjà quelques années, et qui est donc une publication en 4 volumes, qui est en fait recueille les actes d'un programme qui s'appelle le programme Hydromède, et qui a donné lieu donc à 4 symposiums. Ce sont donc un peu les communications de ce symposium, oui, qui sont répertoriées dans ces 4 volumes. Je crois que 2 sont parus. Il y a un 3e qui est en cours de parution.
Non, 2 sont en cours de parution, et un 3e est en préparation.
Voilà, est en préparation, donc ça arrive.
On travaille sur les... Ouais.
Ça arrive petit à petit. Articles. Et également, je citerai « Aux marges de la ville », donc qui est un ouvrage général dont vous avez assuré la direction, sur les aspects des paysages urbains, du fonctionnement de la ville.
Sur le périurbain, effectivement.
Sur le périurbain.
C'était un programme interdisciplinaire. J'aime beaucoup les programmes interdisciplinaires.
Oui, je vois.
Donc, qui réunissait à la fois des historiens, des archéologues, des sociologues, des anthropologues, des démographes, des géographes. Et on avait fait une rencontre et il en est sorti cet ouvrage « Aux marges de la ville ».
Oui, ce travail pluridisciplinaire qu'on rencontre d'ailleurs de plus en plus dans les travaux universitaires, et qui est finalement un enrichissement, bien sûr, quand on a une thématique qu'on peut regarder un petit peu dans tous les sens, tourner autour, c'est quand même plus intéressant. Alors nous allons donc parler de la gestion de l'eau dans les villes grecques antiques, mais on débordera un petit peu parce que dans cette gestion, on a même quelque chose qui vient jusqu'à nos jours, dont on parlera dans la dernière partie de cet entretien. Alors comme on va parler de la colonisation des Grecs dans l'Antiquité, on va peut-être faire un petit point rapide pour rappeler donc à nos auditeurs comment et pourquoi ces Grecs d'origine, donc de la Grèce, quittent leur ville d'origine pour essaimer un petit peu partout autour de la Méditerranée. Hein, on va faire ça donc assez rapidement, donc les raisons du départ et puis les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que ces navigateurs, puisque bien évidemment ils se déplacent en bateau, ces navigateurs recherchent pour s'installer.
Alors bon, vous devez savoir qu'on connaît plusieurs périodes de déplacement jusqu'à la migration du 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ à travers la Méditerranée. Et en effet, à partir du 8e siècle, les Grecs entrent dans une période de redémarrage d'un certain nombre d'activités, et notamment des échanges méditerranéens. Et donc un certain nombre d'entre eux, après une phase d'exploration, de prospection, vont se lancer sur les mers pour plusieurs raisons qui ne sont pas... Pendant longtemps, dans l'historiographie, on a dit, voilà, il y a une cause agraire qui va mener à la création de colonies agraires, une raison commerciale. Bon. En réalité, ces Grecs qui vont s'expatrier vont chercher à la fois des débouchés pour les produits commerciaux, non seulement des débouchés, mais aussi des matières premières qu'ils ne trouvaient pas en Grèce. Par exemple, pour le bronze, on n'a pas de cuivre et pas d'étain. Donc on va le chercher ailleurs. Ils ont besoin aussi de terres dans des régions qui se développent d'un point de vue démographique, souvent des crises politiques. On est à un moment où les cités grecques se constituent et donc il y a des conflits entre les factions aristocratiques, des conflits entre l'aristocratie et le peuple, ce qui provoque l'exil des perdants. Et puis on a des causes accessoires comme... par exemple en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, la côte de la Turquie, les invasions des Lydiens, puis des Perses qui provoquent le départ d'autres personnes. Et puis aussi des causes anecdotiques comme une sécheresse, par exemple, qui va durer plusieurs années et qui va pousser les habitants de Téra à aller fonder Cyrène, en Cyrénaïque.
Mmh. Donc les raisons sont multiples.
Tout à fait.
Mais quelles que soient les raisons... On a quand même une recherche de certains sites qui ont une importance vitale pour la colonie qui va s'installer. Et dans cette recherche, il y a en particulier l'importance des ressources en eau.
Tout à fait. Alors, ces Grecs, effectivement, ont des besoins hein, qui sont bien évoqués par notre premier texte. L'Iliade et l'Odyssée, hein, puisqu'Homère déjà, ou en tout cas l'épopée homérique, hein, ne parlons pas d'Homère lui-même, dans l'Odyssée évoque à propos de la terre des Cyclopes la terre idéale. La terre idéale, c'est celle où on a un bon port, un gras territoire, nous dit-il, une terre excellente et sur le rivage une source sous roche qui va permettre l'installation des Grecs. Et pour l'épopée homérique, la terre idéale, c'est celle des Phéaciens, qui présente justement toutes ces caractéristiques. L'eau en abondance pour la population, l'eau pour l'irrigation, de bonnes terres, un bon port, et les capacités de défense que vont montrer certaines cités grecques, mais pas toutes. Certaines se mettent à des endroits où on se demande pourquoi elles se sont mises là.
Ah oui, donc ils n'ont pas trop fait attention à cet aspect de la vie de la cité. Oui, parce que la défense nécessite peut-être des reliefs, des choses comme ça. On verra par exemple pour Syracuse qu'il y a d'autres éléments qui permettent la défense. Alors donc l'eau, on va en venir donc dans le dur du sujet, si je puis dire, l'importance des ressources en eau, sur le statut de l'eau, et puis on verra après ce qu'on en fait. Alors, cette eau a assez tôt finalement dans l'histoire un statut particulier qui rappelle en partie ce que l'on a aujourd'hui, y compris dans des discussions politiques hein, sur le statut de l'eau et sur la façon dont elle... dont cette ressource est gérée.
Oui, tout à fait. Pour les Grecs, l'eau est un bien commun. C'est une expression dont on parle beaucoup. Et tous ont droit à l'accès à l'eau potable. Et on le voit bon, chez Homère, mais on le voit ensuite chez les théoriciens, enfin les philosophes, que ce soit Platon puis Aristote, qui nous dit dans sa politique « La cité doit avant tout disposer en abondance d'eau de source et de ruisseaux qui soient à elle. » Et donc, c'est une nécessité, mais cette nécessité, elle doit être accessible à tous. Et très rapidement, on voit des mesures prises par les cités pour permettre l'accès de cette ressource primaire à tous, notamment à Athènes, où le biographe Plutarque, hein, du IIe siècle après Jésus-Christ, dans sa vie de Solon, indique que Solon, donc début du VIe siècle avant Jésus-Christ, hein, comme le pays n'avait pas d'eau en suffisance, parce qu'il ne possède ni rivières intarissables, ni lacs, ni sources abondantes, et que la plupart des habitants n'avaient que des puits creusés de leurs mains, Solon établit cette loi que là où il y avait un puits public à une distance moindre que la longueur des courses hippiques, c'est-à-dire 7 à 800 mètres, on pouvait en faire usage. Mais que lorsque le puits était plus éloigné, on devait chercher l'eau dans sa propriété, et si on n'en trouve pas à une profondeur de 18 mètres, eh bien on peut aller se servir chez le voisin. Donc, pour lui, il était indispensable que chacun puisse avoir l'accès à l'eau, et on allait chez le voisin effectivement, mais on n'en prenait que ce dont on avait besoin pour la journée, c'est-à-dire 20 litres pour Solon. Et cette loi a été... c'est une loi, c'est-à-dire que Solon est celui qui a commencé à afficher la loi, donc une loi écrite. Hein, ce qui fait que cet affichage montre que c'est une loi non seulement est visible pour tous, mais s'applique à tous. Et ça, c'est une des grandes nouveautés. Et il y en a une qui concerne l'eau, justement, qui va la donner à tous.
Oui, c'est quasiment la notion de service public de l'eau.
Presque,
et,
oui.
Et on en est, on plonge dans l'actualité 23 siècles après, puisque c'est une des grandes questions aujourd'hui dans les politiques municipales, que de savoir ce qu'on fait de l'eau et de la gestion de l'eau. Je vous propose d'écouter un petit peu de musique. On ne pouvait pas y échapper, Handel, Water Music, parce que il faut commencer par ça, quoi. Ça donne de l'air à tout le monde. Alors, ce qui est intéressant dans ces ressources en eau, c'est que la littérature grecque fait elle-même la distinction entre l'eau douce et l'eau de mer.
Oui, oui, tout à fait. En même temps, on n'est pas très exigeant au départ. Hein, entre le 8e et le 6e siècle, comme le montre bien le poète Hésiode au début du 7e siècle dans Les Travaux et les Jours, on se contente de n'importe quelle eau. On boit l'eau des rivières. D'ailleurs, Hérodote le dit à propos des Perses, hein, qui assèchent les rivières au moment où ils envahissent la Grèce dans leur grande expédition de 480. Donc, à ce moment-là, on ne distingue pas les eaux à boire et les eaux pour les autres usages. C'est progressivement que ça va se faire. On le voit d'ailleurs même à l'époque, même au 5e siècle, hein, le médecin Hippocrate, dans son traité hippocratique, ou en tout cas celui qui est attribué à son école, R.O. Lieu, évoque les différents types d'eau et il s'adresse à des médecins, hein, et il leur dit que ben voilà, selon les eaux qu'on boit, eh bien, on va avoir tel ou tel type de pathologie. C'est très, très expliqué et en même temps, il ne dit pas qu'il ne faut pas les boire, ces eaux des fleuves. Il dit, bon, bah, c'est la situation, les habitants les boivent, mais il faut vous attendre à tel ou tel type de pathologie et donc les soigner en conséquence. L'important, c'est, non, pour l'instant, pas la qualité, mais il suffit qu'elle soit abondante. Et puis, à partir de... Disons que le premier peut-être à mettre en place une hiérarchie, c'est Aristote qui distingue justement dans la politique les eaux à boire et les eaux pour les autres usages. Hein, et dans une cité qui est gouvernée avec une sage prudence, nous dit-il, il faut distinguer les deux. Et effectivement, dans les cités, on va voir... se développer des magistratures autour de l'eau, de surveillance des eaux, veiller à la qualité des eaux potables apparaît comme un objectif important chez les Grecs de l'époque classique. On a par exemple à Athènes, au moins à partir du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, un magistrat qui est chargé de la surveillance des eaux, ce qu'on appelle un épistate des eaux. Et disons, en fait, cette magistrature nous a attiré parce que c'est Thémistocle, le fameux Thémistocle, vainqueur de Salamine, qui a été à la tête de cette magistrature à un moment. Et donc, ce magistrat a le pouvoir de mettre à l'amende tous ceux qui détournent les eaux, qui les captent à leur profit. Et on apprend que c'est une charge qui est élective et annuelle. C'est là avec Aristote. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des magistratures à Athènes, qui étaient des magistratures tirées au sort, avec l'idée que n'importe qui, on est en démocratie, donc n'importe qui peut faire l'affaire, et puis c'est le choix des dieux, le tirage au sort. Eh bien là, c'est une magistrature élective, comme toutes les magistratures les plus importantes. Le stratège est choisi dans la première classe censitaire, la plus riche, l'aristocratique. Et là, eh bien, on a aussi un magistrat qui est élu à main levée et qui va rester en charge pendant une année et qui est chargé de surveiller les fontaines, la bonne distribution de l'eau, la bonne qualité de l'eau. Alors ce soin qui est attribué aux eaux potables, hein, on va le retrouver dans de très nombreuses cités jusqu'à l'époque hellénistique, hein, donc fin du 4e jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, en particulier avec ce qu'on appelle la loi des Astinomes de Pergame, hein, qui est une copie romaine d'un texte original vraisemblablement du 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui impose de veiller au bon fonctionnement des fontaines publiques et des citernes privées. Alors Pergame, pour ceux qui sont déjà allés à Pergame, c'est un rocher. Hein. Il y a très peu d'eau, donc il est vital, hein, pour la défense de la cité d'y faire attention. Ce qui fait que non seulement on a ces astinomes, c'est-à-dire ces édiles chargés de surveiller la propreté de la ville, les bonnes constructions et l'eau, mais aussi on oblige à nettoyer les fontaines, on donne des amendes à ceux qui pourraient... soit laver leur linge, soit prendre son bain, soit faire boire à la fontaine. Mais on impose aussi des règles aux citernes privées. Parce que là, on est vraiment dans le cas de la défense de la cité. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, bien c'est dangereux. Et donc, on va toucher même les propriétaires de citernes privées. Elles doivent être toujours en état pour satisfaire les besoins de la population. Toujours avec cette idée que finalement l'eau est un bien commun. Hein, et qu'on risque d'en avoir besoin pour les incendies, pour les sièges, pour l'alimentation en général. Puisqu'on sait aussi, par exemple, pour les sièges, que dans certains traités de polyurcétique, en particulier Philon d'Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, il nous apprend que l'ennemi essaie toujours de couper les eaux. Donc, soit de couper les eaux, soit de les rendre inutilisables en les empoisonnant. Et effectivement, les Athéniens, en 430, lorsqu'ils sont touchés par la grande peste, hein, cette épidémie qui tue plus d'un cinquième de la population athénienne, sont convaincus que les Péloponnésiens, leurs ennemis, ont empoisonné les puits. Bon, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, dans ce Philon d'Alexandrie, hein, recommande de dénaturer les réserves d'eau à l'aide de poisons mortels, à l'approche des ennemis pour empêcher les ennemis de s'emparer de ces eaux. Alors, il y a toute une recette de poisons qui l'évoque. C'est très intéressant de voir comment, dans les sièges, justement, on utilise les eaux dans un sens ou dans un autre, soit pour se défendre et pour assurer la survie de la population à l'intérieur des murs, soit pour justement obliger la population ennemie à se rendre.
Oui, on a donc vraiment là une gestion qui est très pointilleuse de l'eau, avec des magistrats qui sont un peu dans le parcours politique quand ils effectuent cette fonction. Parce que peut-être que ça les mène, j'en sais rien moi, parce que je suis pas spécialiste, mais peut-être que ça les mène jusqu'aux fonctions de stratège, en tout cas quelques exemples.
Oui, vous avez raison, parce que les hommes politiques qui ont les charges les plus importantes ne sont pas des techniciens. C'est absolument pas... ils n'y connaissent rien au fonctionnement de l'eau, de la fontaine, ou même pour la stratégie. Bon, souvent, ce sont de bons généraux. Mais il peut arriver qu'ils ne soient pas du tout généraux. En revanche, ils sont bons hommes politiques et ils ont des réseaux à l'intérieur de la cité qui leur permettent d'arriver au sommet. Donc cette, en tout cas, c'est cette politique de protection de l'eau, elle est menée parallèlement à une politique de distribution d'eau. Et dans les cités grecques, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, on voit des gouvernements tyranniques qui ont pour souci d'apporter l'eau facile à la population. Alors Aristote dit ensuite que c'est pour pouvoir les endormir, endormir les masses, pour que ces masses ne pensent plus à la lutte politique et à la liberté du citoyen, mais soient... soit fidèle au tyran qui leur a apporté le confort. En réalité, ces tyrans se développent, enfin arrivent au pouvoir dans des cités en pleine expansion économique, et du coup, ils vont effectivement développer des programmes de construction urbaine hein, face à une population souvent en expansion. Et un des aspects de cette politique, c'est la politique de l'eau. Donc, la construction de fontaines, la construction d'aqueducs, en particulier donc, dans les grandes cités, que ce soit Athènes, que ce soit Mégare, que ce soit Corinthe, des fontaines, hein, en particulier chez Athènes, pour ne citer qu'elle, la fontaine aux neuf bouches, hein, la fameuse fontaine qui a été construite sous Pisistrate ou ses fils, parce qu'on ne sait pas exactement sa date. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette source qui a été ensuite canalisée, aménagée pour devenir une belle fontaine, on la voit apparaître sur les vases attiques et de cette période, hein, du milieu du VIe jusque vers les années 510, enfin jusqu'à la fin du VIe, pardon. Et ce thème des femmes à la fontaine, qu'on a tendance toujours à étudier dans une vision d'histoire des femmes, c'est aussi des documents politiques, puisqu'il s'agit d'afficher la puissance du tyran qui a donné l'eau à la population, et ces céramiques grecques avec le thème de la femme athénienne ou de son esclave à la fontaine, eh bien, ces vases vont circuler à travers la Méditerranée. On va les retrouver en Occident, en Mer Noire. Et donc, on voit... Hein,
ce sont les tracts de l'époque.
Exactement.
En quelque sorte.
Exactement.
Oui, donc on voit quand même l'importance politique à plus d'un titre de l'eau. Plus d'un titre, dans la carrière, dans la gestion, dans la propagande, dans l'installation de dictatures, de tyrannies, plus exactement. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble d'éléments qui montrent l'importance politique de l'eau, bon, qui rappelle un petit peu, bon, à un moindre degré, là, notre temps à propos de l'eau. On a des hommes politiques qui, quelquefois, vont se frotter aux grandes compagnies qui organise les réseaux d'eau et puis qui, au passage, prennent un petit quelque chose. Je vous propose, à propos d'eau, de vous faire écouter un instrument de musique qui a été donc un instrument important dans la musique antique, qui s'appelle l'hydrole ou l'hydrolos ou quelque chose comme ça, et qui est une orgue à eau.
Oui, c'est ça, l'orgue hydraulique de Ctésibios.
Voilà. Thank you. Alors, c'est pas complètement fou comme musique, bien sûr. Mais c'est quand même intéressant puisque l'air fourni pour l'orgue, en fait, il est fourni par la chute de l'eau. Ce qui est quand même assez intéressant comme invention. Alors, votre travail a beaucoup porté sur la région de Syracuse. Donc, on va venir donc sur cet exemple de la cité de Syracuse en ayant éventuellement des comparaisons avec d'autres cités. Peut-être quelques mots simplement sur les conditions hydrogéologiques climatiques de cette région, donc pour expliquer que c'est quand même une grande cité qui s'installe.
Oui, tout à fait. Les conditions hydrogéologiques de Syracuse sont excellentes. Hein. Non seulement la cité bénéficie de bonnes capacités de défense avec cette île d'Ortigie qui est facile à défendre, elle bénéficie d'excellents ports, elle bénéficie d'excellentes plaines aussi à proximité, mais elle dispose de ressources en eau importantes. Déjà par la source Arétuse, qui est située dans l'île d'Ortigie, et c'est précisément cette source Arétuse que le dieu Apollon, à Delphes, indique au fondateur de Syracuse, le Corinthien Archias. Il lui dit que justement, dans l'île qui se trouve à Syracuse, là, il y a une source qui abondante et qu'il doit aller à cet endroit-là. Donc une source et une nappe phréatique très facilement accessible, hein, qui est entre 5 et 10 mètres de profondeur, voire
c'est
moins,
peu.
C'est peu. Et puis il y a en dessous, il y a en dessous une nappe beaucoup plus importante qui est utilisée aujourd'hui par des puits artésiens, mais auxquels les Grecs, voire les Romains, n'avaient pas accès. Donc lorsque les Corinthiens prospectent, ils tombent sur cette île, évidemment ils vont s'y installer en chassant les indigènes qui vivaient là jusque-là. Donc ils vont s'approprier non seulement l'île d'Ortigie, le plateau qui lui correspond, les épipoles, mais également toute la plaine côtière qui est irriguée par des fleuves indiqués par les sources, en particulier par Thucydide lors de l'expédition malheureuse des Athéniens en Sicile, qui s'était imaginé qu'il pourrait s'emparer de la Sicile comme ça, entre 415 et 413. Et il y a en particulier deux fleuves qui peuvent marquer une forme de frontière. D'abord le fleuve de la plaine lui-même, qui est le fleuve Anapos, qui lui aussi qui a une mythologie hein, comme Ortigie, qui descendent des monts Ibléens et qui représentent en quelque sorte la limite symbolique de l'entrée vers la ville. On a un texte comme ça de Plutarque hein, qui évoque un personnage politique qui s'appelle Dion, qui vient pour lutter contre le tyran Denis le Jeune hein, et qui s'arrête devant le fleuve et qui fait un sacrifice à ce moment-là avant de franchir le fleuve parce qu'il sait que derrière il rentre dans la zone suburbaine et donc il va au conflit. Et puis il y a un deuxième fleuve au sud complètement de la plaine côtière de Syracuse qui est l'Éloros. L'Éloros qui a donné son nom à une sous-colonie, enfin une colonie secondaire. On n'utilise plus beaucoup le terme de colonie, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Une fondation de Syracuse qui a été fondée à la fin du 8e siècle, donc 30 à 50 ans après la fondation de Syracuse, pour justement baliser le territoire à son extrémité sud.
Est-ce que c'est un lieu de défense ?
L'Éloros, ouais. Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, parce que non, il y a un lieu de défense effectivement vers l'intérieur des plaines, des monts Ibléens hein, qui longent la plaine côtière, hein, qui ont été ces monts Ibléens ont été occupés par les Grecs à travers deux sites principaux, hein, en particulier qui est une véritable forteresse. Et c'est parce qu'on avait rejeté les populations locales vraisemblablement dans les montagnes et qu'on voulait les empêcher de nuire. Et puis, les monts Ibléens, justement, sont un énorme réservoir. Ils sont calcaires, il y a une couche bien d'argile imperméable. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'eau. C'est vraiment un château d'eau, les Monts Hibler. Voilà. Donc, qui alimente les fleuves de la plaine côtière, qui vont servir à l'irrigation, et qui vont alimenter aussi le fameux aqueduc Galerni.
Oui, ils ont, les Corinthiens, quand ils sont arrivés, ont vraiment trouvé l'idéal, quasiment.
Tout à fait, parce que du point de vue de l'eau, du point de vue du port, il y a un grand port pour le commerce, un petit port pour pouvoir mettre une flotte militaire, hein, qui a été ensuite utilisée pour ça. Non, c'était vraiment les conditions idéales pour une installation.
Donc, ils n'hésitent pas à rejeter les autochtones sans ménagement pour récupérer les
Il semblerait qu'ils les aient... on va rentrer dans un autre débat, mais il semblerait qu'ils les aient réduits en partie à l'état de dépendant pour cultiver leurs terres. Bon, ça, c'est un débat historiographique que je ne vais pas évoquer. Mais, et ce territoire, bon, il est à la fois très, très fertile, mais il est aussi maléfique. En ce que, aux portes de Syracuse, il y a deux marécages. Un qui s'appelle Syraco, donc qui donne son nom à la cité.
Dans la ville, oui.
Et puis un qui s'appelle Lysiméléia. Lysiméléia, en grec, ça veut dire qui délie les membres. Les membres, les bras, les jambes. Et ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, toutes les armées qui ont voulu faire le siège de Syracuse, l'armée athénienne au 5e, l'armée carthaginoise au 4e, l'armée romaine au 3e, toutes ont été frappées de dysenterie, épidémies plus ou moins variées qu'on a du mal à identifier aujourd'hui parce que les maladies ont évolué, mais qui affaiblissent les armées, qui tuent les soldats étrangers, alors que la population syracusaine, elle, est habituée depuis des générations à cette... Les faibles sont morts à la naissance. Donc, et ça, c'est une protection. Une protection à la fois symbolique, mais aussi matérielle.
Effectivement.
Oui, tout à fait.
Oui, donc ce marécage est utilisé finalement comme un...
Tout à fait.
Ce n'est pas une fortification, mais ça joue exactement le même
rôle. Voilà,
ordre,
ça joue ce rôle-là. En même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les Grecs, le marécage n'est pas seulement maléfique. Il est aussi bénéfique parce que selon les périodes de l'année... il devient plus ou moins une lagune, il y a plus ou moins d'eau, on peut y faire paître le bétail. Et donc, le terme grec qui veut dire le marais veut dire aussi le lac, la prairie fertile, féconde, etc. Donc, c'est une notion qui est un petit peu compliquée pour nous, qui, à la suite, après le Moyen-Âge, avons vu les marais uniquement comme porteurs de malaria. Une malaria qui tue et qui a vidé les plaines d'Italie du Sud de sa population, cette population s'étant installée dans l'intérieur des terres, sur les collines, pour éviter la malaria, la malaria des côtes. Donc, la malaria malsaine n'existe pas, malsaine, celle qui a le fameux germe qui tue, qui n'apparaît qu'au Moyen-Âge. Elle n'existe pas en tout cas au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais elle est tout de même, le marais est quand même porteur de germes qui rendent malades les soldats.
Oui, et qui protège donc, protège quand même la cité. Donc, il y a une petite question que je voulais vous poser là, juste avant, quand on parlait des conditions générales, un petit peu de climat. Est-ce que le climat a beaucoup changé depuis? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de...
Les ressources en eau ont changé. Le problème du climat, c'est qu'il y a des cycles aussi.
Ouais.
Donc, on s'est rendu compte en particulier que la période à laquelle se sont installés les Grecs, entre le 8e et le 3e siècle, est une période d'abondance des pluies. Et donc... très vraisemblablement, ça veut dire un territoire boisé, des eaux en abondance, donc peut-être pas de besoin de véritable irrigation. Et puis, il y a une période qui succède à cette période-là, qui est une période plus sèche, plus chaude, à partir du 3e siècle. Et effectivement, on voit que cette période qui est appelée hellénistique, à partir de cette période hellénistique, à partir du 4e siècle, on va diversifier les installations hydrauliques. Donc, on a besoin de plus d'eau. Est-ce qu'on a besoin de plus d'eau ou est-ce que l'eau est moindre dans les nappes phréatiques et que du coup, on va conjuguer citernes et puits, c'est difficile à analyser. C'est vrai que nous, on est au début des études paléo-environnementales du territoire de Syracuse. Il n'y en a pas eu énormément qui ont été faites parce que de ce point de vue-là, on est assez en retard.
Oui,
en archéologie classique.
Ouais. C'est vraiment très compliqué.
Oui, c'est assez compliqué.
Très, très, très compliqué.
Mais bon, maintenant, on travaille avec des hydrologues, des hydrogéologues, des archéologues qui sont spécialisés en environnement. Je vois par exemple, nous, là, on travaille avec un chercheur CNRS, Vincent Olivier, qui est spécialiste d'hydroarchéologie et qui, du coup, vient avec nous sur le terrain. Mais c'est récent, il vient depuis 2-3 ans. Donc, le temps qu'ils comprennent comment fonctionne le bassin de Syracuse. On aura des résultats un petit peu plus tard.
D'où l'intérêt de la pluridisciplinarité, encore une fois. Oui. Donc, on va faire une petite interruption musicale avec Lully, là aussi. Donc, Alceste, puisque dans le prologue, il y a le cœur des naïades. Alors, toujours à propos donc de Syracuse, puisque nous sommes venus sur cet exemple, on a déjà envisagé un petit peu l'aménagement, mais on va y revenir, l'aménagement des campagnes, on va y revenir, et l'aménagement des villes, l'organisation de l'eau dans la ville. Comment les choses se passent? Quels sont les aménagements propres à l'eau qu'on trouve dans la ville de Syracuse?
Alors, les Syracusains, dans un premier temps, s'approvisionnent à la source Arétuse, qui est le symbole même de la cité, qui apparaît même sur les monnaies. On voit son nom apparaître sur les monnaies. Elle est vraiment celle qui est l'image de Syracuse. Et outre cette source, il crée des puits s'approvisionner à la nappe phréatique. Et puis, en 480 avant Jésus-Christ, dans le premier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, arrive à la tête de la cité un tyran qui s'appelle Gélon, qui décide de faire de sa cité une mégapole. Et donc, il va vider les cités voisines de ses occupants, en leur faisant la guerre en général, et les installer pour les riches à Syracuse. Donc, il va tout d'un coup grossir la ville, donc ça nécessite un urbanisme également plus élaboré. On commence à urbaniser des zones et à installer des zones qui jusque-là étaient probablement vierges d'occupation. Et surtout, ben, il va falloir plus d'eau. Donc on s'est interrogé pour savoir si ce tyran Gélon avait installé des aqueducs, puisque on en connaît plusieurs à Syracuse, et que parallèlement à Gélon, eh bien, on trouve aussi des aqueducs dans d'autres cités siciliennes, et en particulier à Agrigente. Donc à Agrigente, le tyran qui est le contemporain de Gélon, qui avait passé d'ailleurs une alliance diplomatique, une alliance matrimoniale avec lui, enfin avec la famille, a lancé un programme de grande adduction hydraulique sur la ville d'Agrigente. Donc on peut imaginer que Gélon a fait la même chose, même si les textes ne nous le disent pas. Il a l'exemple des cités grecques de la mer Égée qui ont lancé, justement, en particulier à Samos, il y a eu la construction dans les années 540 du premier grand aqueduc qui traversait la montagne, qui faisait plus de 1000 mètres de longueur. Et il est très vraisemblable que Gélon, hein, pour être aussi un grand tyran, a fait sa politique hydraulique. C'est dommage, on n'a pas de texte pour nous le dire. Mais on a plusieurs aqueducs, trois dans la ville, et puis celui sur lequel nous travaillons, là, l'équipe d'Aix-Marseille Université et du Centre Camille Julian. Cet aqueduc qui part de 27 à 30 km à l'intérieur des terres et qui amène l'eau jusqu'à Syracuse. Donc, on sait, en 415, lorsque les Athéniens arrivent pour faire le siège de la ville, ils coupent les aqueducs. Donc, il en existe, mais on ne sait pas lesquels.
Voilà. Et donc, ces aqueducs arrivent à des fontaines. Et quand on parle de fontaines, ce sont de véritables monuments.
On aimerait bien les avoir, mais on ne les a pas.
Ouais.
Vous savez que le problème de l'archéologie méditerranéenne, c'est que souvent on a réutilisé les pierres pour construire les villes médiévales, modernes. Donc on a une seule fontaine à Syracuse, enfin si on peut appeler ça une fontaine, c'est des vestiges très, très pâles d'une fontaine, mais on ne sait pas comment elle était alimentée. Donc on ne sait pas si les aqueducs arrivaient jusque-là. Il y a des villes dans lesquelles, bon, à Agrigente par exemple, on a une énorme citerne à piliers qui ressemble à un château d'eau, qui vraisemblablement, enfin, on a les arrivées de l'aqueduc, les points de départ, mais les fontaines elles-mêmes, on ne les a pas. Et en tout cas, à Syracuse, on n'a absolument rien de ce type qui soit en lien entre les aqueducs et les fontaines. Si ce n'est qu'au sommet du théâtre grec, nous observons encore aujourd'hui un nymphée qui est creusé tout au sommet de la colline du théâtre, un nymphée, un bassin qui accueille les eaux d'au moins deux aqueducs. Mais là, les investigations n'ont pas été suffisamment poussées pour qu'on puisse dire si ces aqueducs sont ceux qu'on connaît dans d'autres zones de la ville. Alors, l'aqueduc sur lequel nous travaillons, l'aqueduc du Galermie, arrive aujourd'hui dans le nymphée. Mais ça, c'est une déviation moderne, enfin 19e siècle. Mmh. Dans l'Antiquité, il n'arrivait pas là. Il allait jusque dans la ville et on le perd à un endroit. Il a continué ensuite, au 19e siècle, à irriguer des jardins. On en a l'attestation dans les archives nationales. Et à un certain moment, on l'a coupé pour le faire revenir vers le théâtre pour diverses raisons.
Et je vais vous poser une question naïve. Là, on n'arrive qu'aux fontaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution au-delà.
C'est-à-dire, vous voulez dire des robinets, enfin des tuyaux,
c'est ça, voilà.
Un système. Non, il n'y a pas.
Non,
voilà. On n'en a pas à cette époque-là.
Oui, à cette époque-là, ça n'existe pas. Donc, pour Syracuse, on a les sources d'origine, la source d'origine à Rétuse, et puis après, les puits, parce qu'il y aura plus d'habitants, les citernes, etc. Donc, l'équipement l'équipement se développe de plus en plus. Et alors, autre question naïve, moi j'aime bien poser des questions naïves d'abord parce que je suis peut-être un peu naïf, et l'évacuation des eaux.
Alors on n'en a pratiquement pas d'exemple.
Pratiquement pas d'exemple.
En tout cas à Syracuse, non. Il y a quelques villes où on connaît bien l'évacuation des eaux. À Célinonte, par exemple, sur la côte sud, où on a des égouts dans les rues qui sont déjà du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui évacuent les eaux à l'extérieur de la fortification. À Mégara et Bléa, on a aussi, pour l'époque archaïque, donc 6e siècle, on a aussi une évacuation qui passe à travers la muraille. Mais dans la ville elle-même, on n'a pas beaucoup de traces.
Alors on va faire encore une petite pause musicale. Je vous propose donc d'écouter une chanteuse franco-grecque qui s'appelle Angeliki Ionatou et qui nous chante une chanson qui est très très belle. D'abord, elle a une très très jolie voix et donc on va écouter cette chanson qui est sur le cycle de l'eau. J'ajouterai que c'est une chanson de Mikis Theodorakis. On peut aussi appeler cette chanteuse Angelique Ionatos, bien sûr. Alors, dans cette cité de Syracuse, vous avez beaucoup travaillé sur l'aqueduc de Gallermie. Alors, on va terminer avec notre entretien avec ces travaux, parce que cet aqueduc de Gallermie, d'abord, il est là. Vous le voyez, et puis c'est un ouvrage quand même important.
Oui, c'est un ouvrage important parce que d'une part, il est très long. Il fait presque 30 km de longueur. Et ensuite, parce que depuis le moment où il a été créé dans l'Antiquité, il n'a pas cessé d'apporter l'eau à Syracuse. Donc aujourd'hui encore, il sert à l'irrigation du territoire parce qu'en réalité, depuis l'Antiquité, il a changé de fonction. Ça a d'abord été un aménagement qui apportait l'eau potable, qui allait chercher de l'eau dans les sources du fleuve Anapos, pas sur l'Anapos lui-même, parce qu'on est allé chercher les sources les plus pures possibles, de la meilleure qualité possible. Et puis, il les amenait jusque dans Syracuse, à un endroit dont on disait il y a 2 minutes qu'ils étaient perdus. Et puis, dans un deuxième temps, après la fin de l'Antiquité, on ne sait pas trop, on le perd. On le perd à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge, et puis il réapparaît dans notre documentation, d'abord dans l'œuvre d'un moine, le père Tommaso Fasello, qui a écrit une histoire de la Sicile et qui fait une description aussi de la Sicile. Et il nous évoque cet aqueduc qui réapparaît comme ça dans nos sources. Et en même temps, on apprend qu'en 1576, le duc, le marquis Gaetani di Sortino obtient du Sénat syracusain la concession de l'aqueduc et de toutes les eaux autour de l'aqueduc, à condition qu'il le répare et qu'il installe des moulins à farine dessus. Donc du coup, l'aqueduc ne va pas servir seulement à apporter l'eau potable à Syracuse, parce que les eaux de Syracuse sont de mauvaise qualité. Encore au fin 19e, j'ai lu un texte d'un ingénieur qui se lamentait de ce que il y avait porosité entre les puits et les fosses d'aisance. Donc l'eau était vraiment mauvaise, d'où des épidémies, etc. Donc c'est un problème qui est assez ancien, et l'eau du Galerme qui arrivait depuis les monts Ibléens permettait justement d'avoir une eau de bonne qualité et privée de germes. Donc non seulement le Galerme sert à l'alimentation en eau potable, mais aussi il sert à faire fonctionner les moulins.
Comme force de travail.
Voilà. Et donc, on modifie un petit peu certains endroits pour que, justement, il puisse se créer une chute sur les moulins. Et cette famille Gaetani, elle va finir par avoir le monopole de l'eau sur la région. Parce que dès que quelqu'un veut créer un moulin, il faut lui demander la permission. Et alors que cet aqueduc arrive dans la partie continentale de Syracuse, il arrive même à empêcher la construction de moulins dans l'île d'Ortigie, en prétextant qu'il y a des conduits souterrains qui, depuis l'Antiquité, amènent l'eau jusque dans Ortigie, et qu'en réalité, l'eau des eaux d'Ortigie, elle viendrait du Galerme.
Ah ben oui.
Donc du coup, on a l'impression de... Voilà, on ne peut plus rien faire sans lui dans le territoire de Syracuse. Et c'est très intéressant parce que on voit aussi là les luttes des grandes familles aristocratiques siciliennes. Moi, je connais moins bien cette période. Je l'ai confiée à une historienne de l'université de Catane. On voit des différends entre le prince de Floride et qui est la petite commune à côté. Et le marquis de Sortino, et qui se retrouve, querelle qui va jusqu'au sommet de la royauté espagnole. Donc, mais là, déjà, on voit que l'aqueduc a changé de fonction. Et puis, au début du 19e siècle, l'aqueduc arrosait des moulins qui étaient installés sur la cavea du théâtre grec, en plein milieu du théâtre grec. Et là, on commence à voir un mouvement de défense du patrimoine qui se met en œuvre. Et du coup, la cité de Syracuse, poussée par des érudits locaux, des archéologues, cherche à récupérer l'aqueduc. Alors, ils ne vont pas y arriver tout de suite, mais ils vont réussir à obtenir la destruction du moulin. Mais le marquis Gaetani dit qu'il va y perdre, puisqu'il n'aura plus ses taxes sur la farine. Donc on le déplace à l'extérieur dans un premier temps, on le déplace à l'extérieur du théâtre grec. Et puis, à partir des années 1840, là, il y a véritablement une fronde des autorités locales, de la population, pour récupérer l'aqueduc. Et à partir de ce moment-là... L'aqueduc va être confisqué, rendu à la cité de Syracuse, et il va devenir un instrument d'unification, en quelque sorte, puisque c'est la période de l'unité italienne. Le royaume d'Italie envoie une armée en Sicile, mais pas seulement à Syracuse, mais pour ce qui est de Syracuse. Ce sont des gardes à cheval qui vont protéger l'aqueduc. Et on a de très belles archives nous disant que cet aqueduc a été construit pour la chose publique. Il faut qu'il revienne à la chose publique. Les Grecs l'ont voulu pour qu'il serve à la communauté. Il faut qu'il serve à nouveau à la communauté. Mais dans un premier temps, on a besoin des moulins parce qu'il faut
Il faut d'abord empêcher les gens de mourir de faim et surtout entretenir l'armée qui est chargée de pacifier la région et puis d'y construire le royaume d'Italie. Et donc, dans un premier temps, on laisse les moulins, puis progressivement, ils vont tomber en désuétude et on va consacrer cet aqueduc uniquement à l'irrigation du territoire. Et aujourd'hui encore, en 2018, on accorde, le genio civile, qui est celui qui est le tuteur, qui a la tutelle de cet ouvrage du point de vue de l'ingénierie hydraulique, le génie civil distribue des concessions et qui répondent à un règlement qui date de 1857. Il n'a pas bougé. Ah ouais. Quand on instaure une concession, c'est exactement le même système technologique, technique. La seule différence, c'est que les agriculteurs utilisent des pompes ensuite, une fois qu'ils ont leur vasque, pour pouvoir faire monter, parce que il faut bien voir que dans un premier temps, tant qu'on n'avait pas de pompe pour faire monter l'eau du Galerme, qui était issue du Galermi vers les terrains en amont de l'aqueduc, on n'avait pas du tout la même végétation. C'est pas le même paysage agricole. Ah, oui. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'était aussi un dossier intéressant, un dossier que j'ai découvert, en fait. Moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était l'Antiquité. Je voulais surtout savoir qui avait fait cet aqueduc. Et au fur et à mesure que j'avançais dans l'étude, je me suis rendu compte que le dossier contemporain était passionnant, parce qu'il y a des gens qui vivent du Galermi, encore aujourd'hui. Il y a des exploitations d'agrumes qui sont obligés de trouver d'autres solutions, parce que la région sicilienne a abandonné l'aqueduc, ne verse plus les subventions nécessaires. Et du coup, y a des fuites, il y a des effondrements. Et on voit toute une communauté de petits propriétaires qui, vu la carence de l'État, c'est même pas de l'État, c'est de la région, puisque la région étant autonome, l'État n'a rien à faire dans cette histoire. L'État envoie de l'argent, mais il n'arrive jamais jusqu'à Syracuse.
C'est fréquent, peut-être, en Sicile.
Et donc, je suis arrivée une année où il y avait eu un effondrement, et c'était les petits propriétaires, les propriétaires qui utilisaient l'aqueduc sur un kilomètre à peu près, qui s'étaient cotisés, et qui avaient fourni tous les matériaux, et qui réparaient eux-mêmes l'aqueduc.
Ouais.
Donc, justement, un des objectifs que j'ai eu, moi, finalement, en travaillant sur cet aqueduc, c'était de mobiliser les gens. On a fait des entretiens avec une anthropologue auprès des irrigants, savoir comment ils voyaient les choses, etc. On en a fait un film qui est accessible sur Internet. Et on a fait aussi une exposition au musée de Syracuse. Lorsque on a fait cette exposition à la fin 2017, j'avais invité à l'inauguration toutes les autorités possibles. Et il y avait un député qui s'est rendu compte que il fallait peut-être faire quelque chose pour cet aqueduc. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre un mois plus tard que la région sicilienne avait voté plusieurs centaines de milliers d'euros pour la réfection de l'aqueduc. Le problème, c'est que depuis un an, l'argent n'est toujours pas arrivé et qu'on annonce des sommes moindres que ce qui avait été... C'est la gestion locale. Peut-être que ça se fera quand même, mais... Voilà, donc ça, c'était un joli dossier qu'on a découvert en faisant l'étude. Et donc, on était une équipe interdisciplinaire. Géomorphologue pour tout ce qui était paléo-environnement, qualité de l'eau, et puis architecte, archéologue, historien de la période moderne, et puis une anthropologue pour la période contemporaine.
En tout cas, c'était un beau sujet, parce que finalement, on se rend compte que sur 23 ou 24 siècles, oui. le rôle de cet aqueduc... Il n'a pas tellement évolué. On a l'approvisionnement des gens, le problème du bien commun, l'aqueduc comme élément de pouvoir politique et de pouvoir économique. C'est quand même intéressant que ça ait duré tout ce temps-là. Oui. Sophie Bouffier, je vous remercie beaucoup
de nous avoir
accordé cet entretien. Et puis, à une autre fois, alors.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.